Ce soir, on va parler des courants théologiques dans l'Orient, c'est-à-dire, hein, vous vous souvenez, Rome s'était divisé en Occident et Orient, dont le centre de Rome occidental reste toujours Rome, et le centre de Rome oriental, donc c'est Constantinople, en Turquie actuelle. Donc, l'interprétation de la Bible se pratiquait allégoriquement. On a déjà parlé de ça. Il y a un théologien qui s'appelle Anastase, qui était, lui, diacre à Alexandrie. Et il a formulé le credo qui était... adopté au concile de Nicée en 325. Il était un très bon prédicateur, mais comme toutes les personnes, donc son formule pour définir la personne de Christ et sa divinité était très bonne. On l'accepte toujours, même que ce soit les protestants, les catholiques, les orthodoxes, les baptistes, c'est bon. Mais il avait utilisé cette phrase, il appelait Marie la mère de Dieu. Donc, c'est pas parce qu'on a une bonne idée que toutes ces idées sont bonnes. D'accord? Donc, Anastase, comme j'ai dit, le concile de Nicée, c'était 325. Donc, il a vécu aux environs de cette date-là. Après, il y a ce qu'on appelle les Cappadociens. Donc, ce sont Basile le Grand. Je cherche les autres noms. On ne donne que le nom de Basile. On parle de les Cappadociens, mais on donne que le nom de Basile. Donc, c'était la théologie des Cappadociens qui était plutôt développée par l'Église catholique romaine par la suite. Dans leur façon de voir le christianisme, il n'y avait plus de grâce. Le salut était par les œuvres. Les bonnes actions d'aujourd'hui couvraient les mauvaises actions d'auparavant. L'Église était considérée comme une fraternité de fidèles. Les évêques et les anciennes étaient considérés plutôt comme des sacrificateurs, comme aujourd'hui on dirait les prêtres catholiques, les sacrificateurs catholiques. Elle affirmait que l'Église n'était pas, enfin, ne devait pas être persécutée, et que l'Église ne payait pas les impôts, et que l'Église prospérait. Donc ça, c'est une bonne volonté, hein? Que l'Église ne paye pas les impôts et n'est pas persécutée. En réalité, il y a toujours eu la persécution. Mais là, on est dans la suite du concile de Nicée, donc on parle de l'Église officielle. L'Église officielle n'est plus persécutée et l'Église officielle ne paie pas les impôts. Et l'Église officielle prospère parce qu'elle est soutenue par l'État. Alors, dans l'idée des Cappadociens, on parle des Églises toujours à cette époque-là. On ne parlait pas de l'Église unique. Universellement, on parlait des églises, donc les églises dispersées dans les diverses villes et régions. Aussi dans leur optique, Dieu était assez loin. Il n'était pas tout près. Comme nous, le Seigneur Jésus, il est tout près de nous. Et Dieu, il a l'oreille penchée sur nous pour entendre nos requêtes, etc. Pour eux, Dieu était allé plus loin. En ce qui concerne la vie éternelle, ils croyaient qu'il y avait une vie après la mort, comme nous croyons. Il croyait que les sauvés seront bénis éternellement, comme nous croyons. Et ceux qui sont décédés, on ne les priait pas, pas encore. Hein? Donc, ce qui concerne la vie éternelle, ils étaient un peu comme nous. Hein? Concernant la papauté, donc, en dehors du fait que, au fur et à mesure, donc, tous les anciens et les pasteurs et tout ça sont appelés les popes, les papes en Orient, d'accord? En dehors de cette chose naturellement partout là-bas, il n'y a aucune mention d'un pape spécial. Basile le Grand n'était même pas loyal vis-à-vis de l'évêque de Rome. Il n'avait aucune... C'était un autre pasteur comme lui. À cette époque-là, il n'y avait pas encore la messe qui va commencer un peu plus tard. Il n'y a pas encore la vénération des saints qui va commencer encore un peu plus tard. Et la prière pour les morts et l'adoration de Marie vont tous attendre encore un tout petit peu de temps. Donc, quand Basile le Grand a vécu, ces choses n'existaient pas. Mais comme on a déjà dit, Anastase appelait Marie déjà la mère de Dieu. Alors, donc, on spécifie, Marie est la mère de Jésus. Mais Dieu n'a pas de parents. Hein? Dieu s'est fait homme. Il s'est fait homme à travers Marie. Donc Marie a donné le corps humain quand Dieu s'est fait chair pour qu'il puisse vivre parmi nous avec une vraie humanité. Donc elle est la mère de Jésus, mais elle n'est pas la mère de Dieu. À distinction là. Hein? Ça va tout le monde? Le clergé n'était pas très, très puissant à cette époque-là. Qu'on utilise le mot l'évêque ou le pasteur, il était quand même à cette époque-là choisi par la congrégation, même à l'époque de Rome. Au début, c'était quand même le pasteur local était choisi par la congrégation. Mais il y avait quand même une hiérarchie qui était reconnue. Et puis pour la spiritualité, Basile a commencé un mouvement monachique des moines dans l'Orient. Il insistait sur l'importance de la mission et bien que il disait que l'Église n'est pas persécutée. Il désirait être persécuté. Il aurait voulu être persécuté comme les bons chrétiens d'auparavant, dans les bons temps, les bons vieux temps. Donc après, on va parler des Antiochiens. Donc, au contraire des autres groupes à Alexandrie et les Cappadociens. Donc, les Antiochiens interprétaient la Bible de manière littérale, comme nous faisons. Donc, les Antiochiens, c'est les gens d'Antioche. Antioche. Donc, Paul avait été parmi les prédicateurs et c'était l'Église qui envoyait Paul dans ses activités missionnaires. Un des prédicateurs de ce mouvement s'appelait Jean Chrysostome, qui voulait dire « bouche d'or ». Il était considéré un orateur, prédicateur très éloquent. Il est devenu, au fur et à mesure, donc il commençait à être prêtre, consacré prêtre en 386, et il est devenu le patriarche à Constantinople dans 398. Le patriarche de Constantinople était, si vous voulez, le pape à cette époque-là. Mais il n'était pas le pape. Hein, j'ai dit simplement qu'il était le pasteur, l'évêque de capitale romaine en Orient. Et il était banni par l'impératrice en 404 parce qu'il avait une certaine position trop stricte, elle croyait.
Donc, dégage.
Voilà. Donc il n'était pas tué, il était
Non, il
simplement
fallait
exilé.
qu'il dégage.
Alors, pour les controverses théologiques, on a en fait plusieurs controverses. Il y a toujours les controverses. Mais c'est par les controverses qu'on arrive à focaliser un petit peu mieux nos pensées. Comme tout à l'heure, quand on parlait de la philosophie de certains chrétiens du passé, et on a dit ceci, et puis on a dit cela, et on aiguise un petit peu notre pensée en voyant, entre guillemets, les bêtises que croyaient ou faisaient d'autres. Donc il y avait ce qu'on appelle la controverse apollinariste. Là, on parle de l'esprit de Jésus. L'esprit de Jésus est divin, mais son âme et son corps sont humains. Cette doctrine était combattue et réfutée lors du Concile de Constantinople en 381, sous l'empereur Gratien. Donc, Apollinaire enseignait que le Logos, l'Esprit de Christ, a dominé le corps et son âme, éliminant l'esprit humain de Jésus, donc qui n'était pas un vrai homme. Alors, cela éliminait la véritable humanité de Christ. Bon, on ne peut pas accepter ça. Mais bien que ça, c'est doctrine très ancienne, j'ai lu il n'y a pas tellement d'années dans la littérature d'un chrétien moderne un enseignement presque semblable. Dans son enseignement, Jésus ne faisait pas partie de l'humanité. Et pour que nous soyons sauvés, il fallait qu'il soit notre frère. Donc là, on avait une controverse à propos de ça. Par la suite, il y a la controverse nestorienne. Donc Nestorius, il est devenu évêque de Constantinople en 428. Donc c'était presque 25 ans après que Jean Chrysostome était exilé. Donc à peu près une génération plus tard, l'évêque, donc le pape à Constantinople, était Nestorius. Nestorius était contre la phrase Marie, Mère de Dieu. C'était une bonne chose. Hein? Et il était le plus haut dans cette partie du christianisme. Mais d'autres évêques à Alexandrie et à Rome étaient jaloux de lui et l'ont fait condamner. Comment dire, bon, déjà pour cette condamnation, ils attaquaient Nestorius, pas réellement sur sa doctrine, mais à cause de sa position de séparation et de son zèle pour l'évangélisation. Alors les disciples de Nestorius sont allés en Perse, et même au Japon, et même en Chine. Et il y avait des églises nestoriennes, peut-être même aujourd'hui, il y a peut-être quelques-unes qui restent, mais j'ai l'impression que ils sont disparus, la plupart d'y étaient détruits par les guerres. Mais c'était un très grand mouvement missionnaire, les Nestoriens. Hein. Et c'est difficile à savoir vraiment ce qu'ils croyaient parce qu'ils étaient considérés comme une secte, bien que celui qui a démarré le mouvement était le patriarche à Constantinople, donc le pape, et puis donc il était, on l'a fait tomber, donc exilé, mais son mouvement était, oui, continué pendant de nombreux siècles, et je ne sais plus s'il y a des petits groupes scouts ici ou là qui seront peut-être descendants de ce mouvement, je ne sais pas. Et la dernière chose, donc, c'est la controverse eutychienne, qui se base sur Jean 1,14. utiches, je ne sais pas comment le prononcer, utiches peut-être, enseigner que Jésus n'avait qu'une seule nature, une nature divine. Donc ça revient à la première. Hein? Cette nature est devenue humaine lors de la conception de Jésus et est redevenue divine après la crucifixion. Donc, je vais lire ce qui est marqué là. Il y a aujourd'hui en Égypte et en Syrie des sectes catholiques qui tiennent cette position, sectes dont la seule liaison avec Rome est le pape. Donc, ils sont des hérétiques vis-à-vis de Rome, donc ils ont une liaison avec le pape, mais pas avec l'Église catholique. Les évêques Léon de Rome, 440 à 461, et Flavius de Constantinople ont condamné Eutyches, mais en 449, l'évêque Dioscure d'Alexandrie a fait par la force un concile à Éphèse qui a enfin adopté la théologie de Eutyches. Non? Donc, ils étaient soutenus par l'empereur Théodose II. Et à la mort de cet empereur, avec le soutien de sa sœur, un autre concile, le quatrième concile universel à Chalcédoine, imposait cette position. Et donc, c'est une citation. Christ est une personne en deux natures, Dieu parfait, homme parfait. Ces natures sont unies sans confusion, transformation, division ou séparation. Donc on voit que à travers, ça fait presque un siècle et demi, on discutait quelle est la relation entre la nature humaine et la nature divine de Christ. Et on arrive là à définir, un peu comme Anastase avait déjà fait, que Christ est entier. Il est entièrement Dieu, il est entièrement homme.